RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Acte de Montpellier ce soir au terme de la 11e étape du Tour de France, une étape que l'on pensait de transition et qui s'est avérée être l'une des plus excitantes depuis le départ de ce Tour de France, étape remportée par le champion du monde en personne, Peter Sagan, qui décroche là son deuxième succès depuis le début de ce Tour de France. Peter Sagan qui s'impose devant le maillot jaune en personne, là aussi les maîtres du peloton étaient à la corde aujourd'hui pour faire vibrer ce Tour de France. On va en parler dans un instant avec Cyril Guimard, avec Jérôme Pinault, avec Thierry Bourguignon qui sont avec moi pour évoquer cette magnifique étape et pour évoquer celle de demain. Vous le savez sans doute puisque vous nous écoutez depuis un moment, l'étape ne s'achèvera pas demain au sommet du Ventoux mais quelques kilomètres plus bas, 6 kilomètres plus bas au Chalet Reynard en raison des forts vents attendus demain sur le Vaucluse. De tout ça on en parle dans un instant, mais auparavant on va retrouver Arnaud Souk pour la deuxième édition du Journal des Sports. Il est avec nous, bonsoir Arnaud.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Le Tour de France donc avec cette victoire de Peter Sagan.
Ouais, lors de la 11e étape, le champion du monde ne recule devant rien avec dans son sillage le maillot jaune. Christopher Froome, le Slovaque, a fait exploser le peloton à 11 km de l'arrivée sur un fameux coup de bordure. La morale de l'histoire, c'est qu'il s'offre à Montpellier donc sa deuxième victoire d'étape depuis le départ du Tour. Et côté français, on attendait beaucoup, notamment du jeune sprinter Brian Cocard de la Direct Énergie. Il a dû se contenter de la 23e place de l'étape.
Ouais, ça fait un sacré numéro là à 4. Moi j'étais pas trop mal placé dans la bordure et je trouvais que ça roulait déjà très vite quand ils sont sortis. Et c'est à la sortie d'un rond-point. Et puis de la déception. Oui et non, on n'arrive pas pour la victoire. Donc vous savez, après c'est tout de suite différent. C'est comme ça. Là, ils ont fait un sacré numéro devant.
À l'issue de cette 11e étape, Chris Froome, deuxième derrière Sagan sur la ligne d'arrivée, consolide encore son maillot jaune. Il reprend en fait 12 secondes à tous ses principaux adversaires avant une 12e étape. Demain, peut-être un tout petit peu moins spectaculaire que prévu finalement, puisque l'ascension finale vers le Mont Ventoux sera raccourcie de 6 km à cause des conditions météo, à cause du vent notamment très violent. L'actu olympique à 3 semaines des Jeux de Rio au Brésil. Les sélections tombent les unes après les autres. William Acambray ne fait pas partie de la liste des 15 handballeurs retenus par Claude Onesta pour le tournoi olympique. En basket, ils seront 12 au Brésil avec Rudy Gobert, mais sans Evan Fournier. Et puis en volley, la Ligue mondiale, les Bleus face à la Pologne. Ils jouent ce soir leur premier match donc de cette Ligue mondiale. Ils sont les tenants du titre. Le coup d'envoi, c'est à 20h30. Le foot, Unai Emery dirige son premier match en ce moment même sur le banc du Paris Saint-Germain. C'est un match amical à Schladming en Autriche. Ça se passe pas très bien pour l'instant face à West Brom. Les Parisiens sont menés 1-0 à la mi-temps. C'est un but contre son camp assez surréaliste de David Luiz. Il est 19h06 sur RMC. Retour sur les routes du Tour. Christophe Cessieux et son célèbre coup de bordure.
Exactement, merci Arnaud. À demain pour une nouvelle édition du Journal des Sports. On se retrouve évidemment ici en direct de Montpellier avec toute l'équipe. Jérôme Pinault, évidemment, tout de blanc vêtu, c'est le meilleur jeune du Tour de France. Salut Jérôme.
Exactement, le meilleur jeune du Tour.
Cyril Guimard dans une tenue de bûcheron plutôt. Hein. Il est ce soir à carreau.
Non, plutôt les Antilles.
On est
sur des Antilles.
On est sur les Antilles.
Et Thierry Bourguignon, le casier régional de l'étape. Salut mon Bourgui.
Salut.
On messieurs, va évidemment revenir sur cette magnifique étape.
J'ai oublié de fermer la fenêtre.
Oui, il y a un peu de vent. Oui,
il y a des courants d'air.
Ça sera aujourd'hui, demain.
Ouais, ouais. Et oui, c'est 3-6-9 hein, le Mistral. C'est comme ça que ça se passe.
Je sais pas si ça va. Alors, le début d'étape sera plus dur que la montée Ventoux. Ouais. En fait.
On en parlera.
J'ai l'impression pour certains. Il connaît bien le Ventoux, notre ami là.
Bourgui. Ben oui.
Est-ce que tu as déjà roulé avec des vents à 75 km/h sur le Ventoux?
Ah, on a connu, mais là c'est pas 70. Je t'assure, en haut ils annonçaient, j'ai eu l'info avant-hier en me réveillant, ils annonçaient 130 km/h au sommet.
Bernard Hinault dit 100, effectivement.
Ouais, mais ça bouge beaucoup.
Je ne voulais pas le croire. Et bon. T'as vu les photos, on a vu des photos de cyclistes dans la journée qui tenaient leur vélo, mais le vélo était cerf-volant.
Ouais. Bon, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, si vous voulez bien, messieurs, évidemment, parce que le Ventoux, ce sera l'étape de demain et qu'effectivement, Christian Prudhomme, sous le commandement du préfet du Vaucluse, a décidé de tronquer quelque peu l'étape qui ne s'achèvera pas au sommet, mais au chalet Reynard, 6 km plus bas. En attendant, nous allons évoquer l'étape du jour, donc cette 11e étape remportée demain 2 mètres par les patrons, par les cadors du peloton, Peter Sagan qui s'impose devant Chris Froome en personne. C'était tout à l'heure. On revient sur le direct.
Christopher Froome qui parle à Peter Sagan et à Mahesh Bodnar. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur offre la victoire, il les encourage à aller rouler jusqu'au bout. De toute façon, je ne vous disputerai pas la victoire, emmenez-moi le plus loin possible pour que je gagne. Christopher Froome en troisième position, c'est Bodnar à 150 mètres de la ligne. Mahesh Bodnar qui se retourne pour laisser passer Peter Sagan. Sagan qui va enrhumer Christopher Froome, mais Froome fait deux. Victoire du maillot vert slovaque, champion du monde. Peter Sagan devant Christopher Froome et Mahesh Bodnar, 6 secondes seulement.
Voilà, Peter Sagan, le vainqueur de l'étape.
Quand j'ai vu Froome et Geraint Thomas sont venus avec mon coéquipier Bodnar et moi, j'ai bien compris qu'il fallait mettre full gaz, plein gaz. Et on s'est livré à un numéro incroyable en tête de course. Tout le monde voulait être à l'avant et à la fin, on a réussi à faire ce coup. Et c'était une journée exceptionnelle pour moi.
RMC Tour de France 2016.
Voilà le coup des maîtres, le coup de Peter Sagan et de Chris Froome, accompagnés chacun d'un équipier qui ont donc réussi ce que d'autres ont cherché à faire tout au long de la journée. Cyril, ce coup de bordure qui a donc été réalisé à quelques kilomètres de l'arrivée et qui a piégé tous les rivaux, à la fois de Sagan pour le sprint et de Froome pour le classement général. Tout le monde était prévenu, mais tout le monde s'est fait piéger.
Bien, personne. Tout le monde était prévenu et malheureusement ils n'ont pas tenu compte des avertissements. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'une étape avec les vents que nous avions aujourd'hui sur l'ensemble du parcours, c'est une étape, il faut bien le dire, dans les conditions où elle a été courue, qui est plus difficile qu'une étape de montagne et qui souvent fait plus d'écart d'ailleurs qu'une étape de montagne. Là, j'ai presque envie de dire, compte tenu des écarts à l'arrivée, il ne s'est pas passé grand-chose, sauf que les quatre hommes qui arrivent, enfin, les deux surtout, parce que les autres sont les équipiers, enfin qui étaient aussi forts que leur leader. Ça a permis, un, à Peter Sagan de se retrouver ce soir avec 90 points d'avance pour le maillot vert. Donc ce sera, à mon avis, suspense terminé. Et puis Froome qui reprend 12 secondes, 6 à l'arrivée, plus 6 de bonification. 12 secondes, c'est toujours bon à prendre. Et des fois, à la fin de la fête, il sera peut-être content de les avoir prises.
Mais... oui, parce que c'est quasiment le cas tous les jours, Jérôme, hein, pour Chris Froome qui va grappiller des petites secondes. C'était le cas l'autre jour dans la descente vers Bagnères-de-Luchon. Alors, c'est vrai qu'il donne beaucoup et qu'il récolte assez peu, mais malgré tout, il suffit d'une seconde pour remporter le Tour de France. Hein.
Ouais, il suffit d'une seconde et surtout, il gagne sur le plan psychologique. Ça fait deux fois qu'il piège son adversaire principal, Quintana, sur des terrains qu'on ne lui connaissait pas. En tout cas, il était plutôt dans l'attentisme et a tapé un grand coup lors des premières montées, lors des premières arrivées au sommet. Et là, il a surpris ses adversaires sur les terrains qui d'habitude ne lui sont pas favorables. La descente, le plat, les bordures, là, on l'a vu très très bien placé tout au long de la journée déjà. Il a tout de suite réagi aux moindres attaques, aux moindres accélérations. Des équipes de sprinteurs, de rouleurs, de Tinkoff notamment, qui a été la plus active. Et surtout, après, il a su suivre Sagan dans le final, alors que Sagan est l'un des plus forts en ce moment, et surtout sur ce genre d'exercice. Donc, la théorie du coureur qui veut piéger les autres dans des terrains qui ne sont pas le sien parce qu'il n'est pas sûr de gagner en montagne, elle tombe à l'eau aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a eu un numéro de force. Hein. Ce sont les deux plus forts et les quatre plus forts qui sont arrivés au bout ici.
Hein. Coup de maître et coup de force, effectivement, Thierry, hein, quand on voit quatre hommes comme ça résister au retour du peloton emmené par toutes les équipes de sprinteurs, c'est vraiment un coup de force incroyable.
Non, mais il a du génie, ce Sagan, hein, parce que il aurait pu se contenter d'arriver au sprint, marquer quelques points au risque d'en perdre un tout petit peu par rapport à la concurrence. Eh ben non, là il a senti que c'était le moment. Il a déclenché les hostilités et puis après, on l'arrête plus. Hein. Et bon, et en plus, il voulait offrir la victoire à son équipier. C'est un peu dommage que Froome ait gâché la fête, un petit peu.
Ouais, je pense pas qu'il ait voulu lui offrir la victoire. Ah, hein. Tu sais, c'est un champion, Sagan. Il y a des points à prendre, ouais, pour le maillot aussi.
Il en prenait toujours, tout autant pratiquement. Il en perdait un petit peu. Non, là on le voit bien. Il est dans la roue et puis il accélère simplement quand Froome.
Quand Froome lance,
le
exactement.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors le problème est de savoir parce que je trouve que c'est un peu huilé leur affaire au maillot vert et au maillot jaune. On sait que l'histoire est là pour le démontrer. Le maillot vert est souvent un équipier du maillot jaune. C'est-à-dire que le maillot vert va s'associer dans certaines circonstances de course et donc soulager le contrôle de la course pour le maillot jaune. Et là, lorsqu'on regarde l'échappée telle qu'elle se crée, comme par hasard au moment où il y a l'accélération de Bobnar avec Sagan dans la roue, il y a le maillot jaune et il y a un équipier.
Il n'est pas dans la roue.
Ils partent tous les quatre, il y a une cassure qui se fait. Et là, on peut se poser la question, est-ce que c'était pas un coup monté des deux maillots jaunes et maillots verts?
Non, moi je crois pas, parce que
alliance de circonstances en tous les cas.
Parce que Froome, oui, Froome se fait surprendre au début. Hein. Il gicle avec un temps de retard. Hein. Mm. Et puis Geraint Thomas encore un peu plus. Donc ils se font surprendre. C'est les autres qui sont surpris et qui bougent pas assez vite. Et puis après c'est trop tard. Hein.
Comme
quand les quatre machines sont parties pour les arrêter, chapeau.
Ouais, comme on l'a vu. Réagir et boucher le trou sur Sagan, c'est un grand message de sa force, hein, parce que s'il avait été au taquet toute la journée à stresser, à pas pouvoir se replacer, Chris Froome, il aurait pas répondu à l'attaque de Sagan. Il s'en fiche, lui, que Sagan aille gagner une étape de plus. Alors que là, il a réagi, il a su boucher les 30 mètres qu'il séparait du Slovaque, et c'est quand même un signe que Froome, sur le plat, est très très fort. Et il y a un contre-la-montre, parce que demain on parle du Ventoux, mais après-demain il y a un contre-la-montre,
oui, contre-la-montre
plutôt roulant, et il va encore mettre une tartinée à Quintana, parce que pour moi, aujourd'hui, il a quand même fait preuve, encore une fois, de sa supériorité et sur le plat aussi. Donc, finalement, moi, je serais le Colombien, je serais un peu inquiet ce soir.
On va en parler de Quintana dans quelques instants. Auparavant, on va écouter, si vous le voulez bien, Chris Froome, justement, le maillot jaune, qui a donc grappillé 12 secondes supplémentaires aujourd'hui et qui s'est une nouvelle fois régalé en piégeant tous ses rivaux. On l'écoute.
Cette année, l'équipe, on va... Prenez toutes les opportunités, prenez temps sur les autres. C'était un peu de chance quand Peter Sagan il attaquait et j'ai suivi avec Geraint Thomas. Oui, je suis très content de prendre un peu de temps en plus sur les autres.
Voilà.
Et heureusement que Contador n'est plus là. Autrement, Sagan aurait été obligé de se relever.
Ah oui, effectivement, tu as raison Thierry, le fait que Contador
soit avantage
plus là,
pour lui, c'est un avantage pour lui.
Oui. C'est aujourd'hui
il fait
la...
Et puis surtout il fait
le seul leader unique de la formation
Tipcoff. Il fait ce qu'il veut, il crée son art à sa façon à lui, c'est-à-dire un peu n'importe comment, un peu partout Sagan, il a pas cette espèce de schéma à respecter avec le leader qu'il faut pas mettre en difficulté, qu'il faut protéger, qu'il faut surveiller où il est avant de passer à l'action. Là, il est en total freelance Sagan. Et c'est encore plus beau à voir parce que quand on laisse aller le talent de ce garçon-là, eh ben, ça crée des choses comme hier et comme aujourd'hui, parce que faut pas oublier l'étape d'hier. Hein,
bien sûr, bien sûr, oui,
c'est
alors,
énorme.
Samuel Dumoulin, justement, dire ouais. Aujourd'hui, j'étais cuit, j'avais les jambes lourdes après l'échappée d'hier, mais Peter Sagan, lui, n'a jamais de journée sans. Hein, Cyril, il est quand même incroyable, ce garçon.
Et ça lui est arrivé d'en avoir. Hein,
cette année, en tous les cas.
Mais de toute façon, il a pris un cran. Par rapport à l'an dernier, c'est évident. Dominé l'an dernier sur le Tour de France, réalisant un formidable exploit de place de second. Depuis le championnat du monde, il a passé un cran, ça c'est évident. Mais quand on connaît le talent de ce coureur, quand il fait 3 jours dans l'autobus, il peut faire derrière 2 jours à bloc. Demain, il va faire l'autobus. Donc, quand lui il est dans l'autobus, il est en vacances. Il est en récup. Bon, quand Samuel Dumoulin il est dans l'autobus, il est occupé. Eh ben oui.
Non mais c'est sûr, il est.
Donc c'est clair, c'est pas les mêmes cours.
Ben, il est capable. Attention, parce que Sagan, il est capable. Alors là, il y a vraiment des grosses étapes dans les Alpes où les cols s'enchaînent, mais Sagan dans une échappée avec des coureurs un peu baroudeurs comme lui, arrivé au sommet.
On l'a vu dans l'étape du Lioran, il a vite décroché.
Non, mais parce qu'il peut pas gagner là, il est avec tous les autres. Mais s'il prend une échappée,
c'est là où j'ai dit, il prend l'autobus.
Et s'il est dans une échappée un jour pour aller chercher des points avec un sprint intermédiaire, il est capable de passer un col.
Pas la répétition des grands cols, mais la montagne.
Non, mais il sait à quel moment il faut décrocher. accrocher et à quel moment il faut y aller.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il a vraiment la science de la course, ce gars-là. Ouais. Parce que quand ça sert à rien de s'accrocher quand il y a rien au bout. Donc là, quand il passe devant avec une échappée, ben on sait qu'il y a des points à aller chercher derrière et il est capable de beaucoup de choses. Et là, franchement. Moi, il y a deux hommes là, Sagan et Froome aujourd'hui, extraordinaire parce que l'un et l'autre, on aime ou on n'aime pas, mais on peut que saluer la force de ces deux hommes
le
et puis l'intelligence de course.
Ouais. Alors justement, c'est vrai que Chris Froome a été plutôt impopulaire sur les routes du Tour ces dernières années. On n'aimait pas sa façon de courir, on n'aimait pas ses accélérations fulgurantes dans les montées. Cette année, j'ai eu plusieurs tweets passés sur le hashtag RMC Live tout au long de la journée et j'ai l'impression qu'il est en train de renverser la tendance et que par justement son panache ou sa science de la course, il est en train de mettre le public dans sa poche. Jérôme, je voudrais avoir ton avis là-dessus.
Ouais, c'est sûr, il est en train de changer son image. On avait l'impression on l'aimait pas trop ce coureur-là. Finalement, on disait il est froid, il est un peu
il est trop maigre, il est anglais.
Il est dans sa bulle, il est moderne, c'est un robot, il réagit uniquement aux ordres de sa voiture et il est téléguidé. Eh bien non, là, il est en train
et puis sur son vélo, il ressemble à un scarabée sur une pelle chaude.
Scarabée qui va vite, hein, parce que il est en train et puis il fait l'effort maintenant de répondre pratiquement à chaque fois en français. Il a le sourire tout le temps. Il est très disponible. C'est vraiment opération.
Ça c'est du marketing.
Oui, mais c'est une opération sélection, Cyril. Ça compte, le grand public aime ça.
Il faut lui donner un vrai nom. Est-ce que c'est naturel chez lui d'être comme ça? Sagan, c'est naturel. Bon, sauf qu'il parle pas le français.
Mais peut-être, mais tu sais, Cyril,
il parle en anglais tellement délicieux.
Mais il y a aussi quelque chose.
il a l'anglais à la française.
Quand il a gagné, quand il a commencé à dominer, on est vraiment tombé dessus, voilà, avec les suspicions qu'on connaît, etc. Alors, je dis pas que c'était pas fondé, mais je dis que voilà, il avait peut-être envie de dire, bah écoutez, si vous pensez ça, allez vous faire voir. Maintenant, il est rentré dans une deuxième phase où il est et plus fun en dehors et plus fun en dedans. Il a peut-être compris aussi, et ça c'est peut-être pas naturel, mais en tout cas c'est peut-être du marketing, que Sagan plaît, Matthews plaît, il fait un peu des deux, il essaye de rendre
il lui manque beaucoup de choses quand même.
Il lui manque des choses, mais en tout cas un maillot jaune qui met
le paquet cadeau, il l'a pas.
Il a la même coupe que Jérôme.
Oui, mais c'est pour ça que tu l'aimes bien, c'est parce qu'il te ressemble un peu physiquement, Christophe.
Il a pas le paquet cadeau, l'emballage il l'a pas.
On est beaucoup sur le physique aujourd'hui,
on est très sur le.
Ne vous inquiétez pas,
Patrick avec nous, 32-16. Bonsoir Patrick.
Bravo à vous, toujours très belle émission.
Eh ben merci Patrick, ah oui, fidèle auditeur qui intervient régulièrement dans l'intégral Tour et pas seulement d'ailleurs. Bon alors Patrick.
Eh ben je vais pas être d'accord avec vous. Ah. Je suis désolé, vous m'en excuserez d'entrée.
On t'excuse d'entrée, allez.
Alors, vous avez le droit.
C'est très simple. Peter Sagan, Peter Sagan, il a toujours prouvé que c'était un battant, quelqu'un qui démarrait, qui était fort. Et bon, il n'y a rien de surprenant. Maintenant, Froome. Il y a vraiment Froome et les autres. Alors, est-ce que les autres, les 190 ou quelque chose, sont tous nuls? Et lui, c'est un super-héros. L'influence médiatique, qu'il plaise, il est plus doux, il est plus gentil, il est plus ça. Mais ça, il sait en jouer, c'est un bro. Hein. Et puis, je veux dire que scientifiquement parlant, il y a quelqu'un qui a fait un superbe article, c'est Fred Grapp, chercheur en sciences du sport qui s'occupe de l'équipe de Thibaut Pinot. Et qui dans cet article dit quand même à un certain moment, vous savez, pour pas que à la caméra infrarouge on voit pas le petit moteur, il suffit de mettre une plaque d'aluminium entre le moteur et le cadre et puis on verra rien du tout. Alors moi je suis désolé, j'ai rien contre Chris Froome, c'est pas quelqu'un qui m'est antipathique.
Mais il y a rien pour non plus.
Non, parce que vous vous emballez tous maintenant. C'est le héros du Tour. Demain il va encore mettre des secondes. Il a déjà gagné le Tour, qu'on le dise ou non. C'est même navrant pour les journalistes de commenter, parce que les journalistes, ils commencent à perdre le moral. Quand on voit la course, ils débarquent comme ils veulent.
Quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, Patrick,
il aurait pu gagner l'étape. Parce que Sagan, il voulait que ce soit son copain qui gagne l'étape. Ouais. Il a fallu qu'il gagne, qu'il fasse le sprint pour gagner l'étape.
Mais bien sûr, quand on est un champion, on a envie de gagner, c'est normal.
Pardon ?
Quand on est un champion comme Chris Froome, on a envie de gagner. Là, il voulait.
Mais non, mais vous êtes
émerveillé,
obnubilé d'un seul coup par Chris Froome.
On peut que l'être.
On trouve que sa façon de faire est dans la descente de Bagnères de Luchon, Patrick.
Il mouline dans l'huile d'olive, ça va.
Non, c'est la science. La science de la course.
Je suis d'accord avec Patrick. Là, d'un seul coup, là, vous êtes en train de l'encenser comme il est pas
permis.
On est en train de l'encenser.
Arrêtez de l'encenser.
l'évolution de la course
et que
par rapport aux années précédentes,
je vais mettre les pieds dans le plat à ce moment-là, on arrête.
On risque effectivement de tomber.
Je vais mettre les pieds dans le plat et je vais vous demander. Moi, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander quelque chose.
On ne l'idolâtre pas d'un seul coup. On a le problème avec
l'idolâtrer non plus. Non, mais attendez.
Est-ce que si Thibaut Pinot est à la hauteur de l'événement et que Thibaut Pinot fait la descente vers Bagnères et que Thibaut Pinot est dans la première bordure, est-ce qu'on fait tout un pataquès parce qu'on a des suspicions?
Pinot, on le connaît bien.
Ah, Chris Froome, vous connaissez pas plus. Là, je suis d'accord avec avec Jérôme. Faut pas non plus lancer suspicions.
Thibaut Pinot, on sait ce qu'il vaut, on sait qu'il est bon, on sait qu'il fait des exploits. Mais
Froome, c'est pareil. Il a gagné deux fois le Tour de France.
Trop facile,
moi,
moi, j'en sens pas Froome. Je salue sa son intelligence de course et puis sa façon de courir.
Ah,
parce que
je suis d'accord. L'intelligence de course, le coureur, tout ce qu'on veut. Là,
c'est qu'on en sens. Ouais, en sens Patrick, la façon dont il a procédé aujourd'hui surtout.
Je mets un point d'interrogation. Mais oui, non, mais on est obligé, surpris de son départ sur le plat aujourd'hui. Tout le monde était surpris. On découvre que sur le plat.
Il est dans la roue de Sagan, qui est quand même l'homme le plus fort du peloton.
Alors à ce moment-là, Sagan, on soupçonne aussi Sagan, Patrick.
On soupçonne Sagan, on soupçonne Bonnard, on soupçonne tout le monde.
Je soupçonne pas Sagan.
Et pourquoi?
Si la plaque d'aluminium, il peut la mettre lui aussi, Patrick. On n'a jamais été surpris par Sagan.
Il n'y a pas d'aluminium en Slovaquie. Il faut quand même se rappeler du passé et garder certaines réserves. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Patrick.
Merci beaucoup.
Mais la réserve, on peut l'avoir pour n'importe quoi.
Sagan qui attaque hier, qui fait toute la journée devant, qui aujourd'hui est encore devant, on peut aussi le soupçonner, Patrick, non?
Exactement.
Non,
d'accord.
C'est un surhomme, lui. Lui, il a un surhomme.
Gardons certaines réserves. Voilà.
Mais c'est pour tout le monde, Patrick.
C'est pour tout le monde. On a fait un débat au cours de l'après-midi, justement, concernant l'article dans le Parisien et sur ces soupçons de dopage technologique.
On a quand même le droit d'y penser.
Mais bien sûr.
Non, fraude technologique.
Oui, dopage ou fraude, c'est la même chose.
Mais non, c'est pas la même chose.
Oui, non, là, tu vas pas jouer sur les mots.
Il est contrôlé depuis le début du tour, sur toutes les étapes, et il n'y a pas de moteur dans son vélo. Pour le moment, il n'y a aucune preuve. Arrêtons avec ça de suspecter la moindre performance.
Aujourd'hui, pour le moment, il n'y a aucune preuve. C'est vrai.
Pour le moment.
Mais c'est quand même étonnant qu'un coureur, dans une étape plate,
mais pourquoi, Patrick, c'est pas une étape plate.
Démarrer comme ça, hein, c'est l'opportuniste. Oui, il est opportuniste.
Mais c'est
une
étape difficile aujourd'hui.
Il y a 20 mètres à boucher. Tous les coureurs peuvent le boucher.
Demandez aux coureurs du peloton ce qu'ils ont pensé de l'étape.
Mais Quintana, il est en fond de la classe. Il aime pas les bordures.
Il va faire quoi demain dans cette étape qui est difficile?
Ah ben, on verra bien.
Il va tenter quelque chose, il fera rien, le pauvre.
Si vous écrivez l'histoire avant de la vivre,
on verra. Mais vous inquiétez pas, Patrick. On garde évidemment les yeux ouverts sur ce qui peut se passer dans le peloton, et je pense qu'aujourd'hui Chris Froome est plutôt surveillé avec
bien sûr
soupçons.
C'est l'homme le plus surveillé de la planète dans le sport.
Enfin, Lance Armstrong aussi
Non, je suis entièrement d'accord avec toi.
Il faut rester vigilant, attentif et ne pas tout donner gratuitement comme ça.
Mais on va s'arrêter là.
Thierry, stop. On s'arrête là parce qu'on doit faire une petite pause et on revient après. Merci à Patrick en tous les cas qui a réveillé tout le petit monde ici dans le camion RMC. Patrick, il a pas sa langue dans sa poche et il nous a bien mis le feu. Là, on revient dans un instant pour parler des autres. Peut-être de Quintana. Quintana, lui, il a rien, il a pas de moteur. Hein. Ça, on peut se rassurer. En tous les cas, pas dans les descentes ni sur le plat. Et puis, on va parler évidemment de ce Mont Ventoux demain. Donc, et un petit peu tronqué quand même. Il faut bien le dire. Avec 6 km en moins, on va se poser la question. Le cyclisme est-il en train de s'aseptiser, mon cher Cyril Guimard? Je pense que vous aurez des choses à nous dire là aussi dans quelques instants sur RMC l'Intégral Tour jusqu'à 20h. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Au soir de la 11e étape de ce Tour de France, remporté de main de maître par Peter Sagan devant Christopher Froome. Chris Froome qui, on vous le rappelle, a tout de même grappillé 12 secondes supplémentaires au classement général. Il est ce soir donc maillot jaune avec 28 secondes d'avance sur son compatriote Adam Yates et un peu plus sur Quintana qui nous a une nouvelle fois déçu. Il faut bien le dire aujourd'hui, Quintana, remarquable grimpeur, même si on l'a pourtant toujours pas vu à l'attaque dans ce Tour de France. On espère évidemment que demain,
remarquable, il se mettra
en évidence, mais Quintana est un superbe grimpeur, mais c'est un peu tout, messieurs. Est-ce que ça suffit pour faire un potentiel vainqueur du Tour? Parce que les descentes, c'est pas non plus son fort, le chrono, c'est pas trop son truc, les sprints, évidemment, n'en parlons pas, et puis les coups de bordure, il est derrière. Alors franchement, moi, ce Quintana, je suis désolé, mais je suis déçu par ce coureur aujourd'hui. En plus, il dégage rien, il a pas de charisme, il n'a rien, bref. Franchement, je suis déçu. Donc j'espère que demain, il va se rattraper, parce que franchement...
Si c'est le coureur que tu décris, ça veut dire que c'est un 3 et 4, un ratagaz.
C'est un ratagaz.
Non, mais attends, il sait pas faire ça. Bon, d'accord, ok. Mais enfin, il a déjà été deux fois ou trois fois sur le podium du Tour.
Parce que les autres sont plus nuls encore.
Donc ça veut dire que tous ceux qui sont derrière lui sont plus nuls que lui. Punaise, disons, on a une course de ratagaz.
Non, mais c'est pas ça, Cyril. Mais quand t'annonces la couleur, le Suelio, Mario et compagnie, et que t'es un grimpeur et que dans les Pyrénées, tu te restes concentré à juste suivre Chris Froome, à pas le mettre en difficulté, que tu dis que tu t'es fait piéger parce que t'as pris un bidon au mauvais moment, qu'aujourd'hui tu pleures parce qu'il y a du vent, il aurait fallu presque annuler l'étape. Attends, à un moment donné, quand tu viens sur le Tour, tu sais qu'il va y avoir des descentes, tu sais qu'il va y avoir du vent, tu t'armes dans ta tête pour venir gagner le Tour. Et gagner le Tour, bah, il faut être bon dans le vent, il faut être un peu bon partout. Là, ce soir, il fait preuve de faiblesse de dire que peut-être que les organisateurs ont mis en danger.
C'est du mauvais alibi.
Moi, je suis d'accord avec Christophe. Pour l'instant, moi, je suis très déçu. Il est décevant, ce coureur.
Alors, je vais vous dire, moi, je suis partagé. Ou je suis déçu par un mec qui fait que suivre et qui prend des coups de bordure et tout ce que tu veux. Ou alors, il est tellement sûr de lui qu'il a annoncé la couleur que demain, il est tout faire péter.
Comment tu peux être sûr de faire péter Froome dans tout, quand je veux dire. Jusqu'à présent, il a été battu dans les grandes étapes de montagne par Chris Froome, hein, les années précédentes. Donc, il peut pas être sûr de lui en disant je vais larguer Froome et le mettre à 10 minutes.
Dans le Ventoux, il a fait jeu égal avec, en étant parti au pied. Hein.
Oui, puis en plus, il est meilleur. Non, mais dans le fort pourcentage, je pense qu'il est meilleur que Froome. Hein.
Mais tu peux pas imaginer qu'il va prendre.
Est-ce que
dans sa tête, il se dit demain, je vais exploser Froome sur les pentes du Ventoux. Est-ce qu'il peut se dire ça dans sa tête?
Il a dit qu'il ne le condamnait pas
parce que dans un exercice.
On le condamne pas.
Dans un exercice aussi difficile pour un Colombien que les bordures, il finit quand même devant et il perd que 12 secondes. Et d'un seul coup, vous dites c'est un 3 et 4. Bon, moi je veux
on
dire.
On n'a pas dit que c'était un 3 et 4, on a dit qu'on était décevant.
C'est surtout sur l'attitude qu'il a eu dans les Pyrénées.
Qui finit devant en ayant d'ailleurs plus d'équipiers dans le final, je trouve que sa performance aujourd'hui est estimable.
Non, mais c'est pas aujourd'hui, Cyril. C'est son attitude dans les Pyrénées. Il a fait que suivre. Alors,
Il a même pas planté de banderie. Il a même pas essayé d'attaquer Froome. Pas une seule fois, hein.
Ben oui, il a pas essayé. Regarde, tout le monde a essayé d'attaquer.
Non, mais je suis d'accord avec vous qu'il a pas essayé. Mais ne disons pas que c'est un petit courant.
On dit qu'on est déçu, Cyril. Il faut lui déboucher les oreilles au druide.
Il a son casque, il entend pas.
Le pire, le plus qui me déçoit, c'est son attitude à dire que l'organisation, c'est pas normal de nous lancer dans du vent comme ça. Mais attends, et le vent, déjà, on le sait pas. Et puis la région, on sait qu'elle est ventée.
Le premier qui l'a dit, c'est son manager général. Donc il a répété ce que le manager général.
C'est une réaction de loser. C'est une réaction de mec qui a perdu.
C'est vrai que c'est Movistar. C'est vrai qu'ils ont la science infuse.
Ouais. Tactiquement, il ferait mieux de réfléchir à deux fois.
Je pense qu'ils vont tout faire péter demain.
Non, mais après, on verra demain. S'il est capable de faire exploser Froome dans le Mont Ventoux, bah, très bien. On dira chapeau, il a bien couru.
Mais avant du Ventoux, Jérôme, il va falloir.
Mais voilà, c'est ça le truc. C'est qu'avant du Ventoux, il y aura, on annule alors de Ventoux demain s'il y a trop de vent pour Monsieur Quintana. On part au pied, on arrive au chalet.
On raccourcit donc la course. Elle partira de Cavaillon parce qu'avant il y a du vent.
Alors, attendez, je vais le défendre.
Je vais le défendre
parce que là, tout à l'heure, on peut pas écouter la réaction de Quintana, mais il a confié à Georges Quirino que si l'étape devait s'achever au Chalet Reynard, il serait déçu parce que lui espérait justement qu'il y ait les 6 km. Tiens, il est là, Georges, justement, il va nous dire, puisqu'il a rencontré tout à l'heure le Colombien. Bonsoir, monsieur Quirino.
Hola.
Notre Colombien à nous. Alors, il a plus Contador et en plus, il a Quintana qui perd des secondes jour après jour.
Ouais. Bon, enfin, il a les Portugais quand même.
Oui,
il a,
c'est vrai. Ouais,
parlons vélo, s'il vous plaît.
Alors, Georges, qu'a dit tout à l'heure Quintana concernant justement cette arrivée tronquée demain de l'étape qui devait s'achever au Mont Ventoux et qui va s'achever un petit peu plus bas?
Ah bah, lui, clairement, il nous a dit est-ce une peine. C'est une peine, clairement. On le sentait déjà défait par ce qui s'était passé aujourd'hui, Nairo Quintana. Et clairement, lui et son équipe nous ont dit que le Mont Ventoux, c'était typiquement l'ascension qui correspondait parfaitement aux caractéristiques de Nairo Quintana. Donc sans ce sommet, sans l'arrivée, ça changeait beaucoup pour lui.
Georges, je pense que c'est fait pour lui, mais jusqu'au chalet.
Ouais, moi aussi, je pense.
Parce que après, de toute façon, avec le vent qu'il y a,
il aime pas le vent,
moment,
il l'a dit.
Il aurait eu vent de face et on ne peut pas creuser l'écart dans ces conditions. De toute façon, là j'en suis persuadé.
Chez Sky, Nicolas Portal, le directeur sportif, nous disait, lui, en revanche, qu'il était aussi peut-être bien content qu'il n'y ait pas ce final, quoi, justement, parce qu'avec ce vent et tout ça.
Oui,
tout
parce
peut
que
arriver,
les risques,
mais
voilà. Des risques,
donc, mais même pour, voilà, pour faire les écarts. Donc,
De toute façon, le Ventoux, pas Ventoux, il y a de quoi faire. Demain, on arrive au chalet Reynard. Bourgui, on a monté le Ventoux. Si tu n'es pas capable d'exploiter la première partie du Ventoux, c'est déjà qu'il y a un souci, hein, parce que là, d'aller jusqu'au chalet Reynard, c'est pas facile.
La forêt, hein. En fait, c'est ça.
Ouais, c'est la partie là. C'est la partie la plus pentue. C'est la partie la plus pentue du Ventoux. Après, c'est un peu moins pentu. C'est dur parce qu'on voit le sommet. C'est psychologiquement difficile, mais la pente est plus raide du pied jusqu'au chalet Reynard dans la forêt. C'est là que c'est le plus dur et c'est là que Quintana doit exploiter ses qualités de grimpeur.
Sauf que sur la partie dans la forêt, on risque quand même d'avoir un vent défavorable.
Ah. Non.
Il va pester contre le vent demain.
Dans les arbres, il n'y a pas de vent.
On va écouter.
Qui va jouer la course. Hein. Là, je t'assure, du côté de Bédouin, il sera à l'abri. Hein.
On va écouter Christian Prudhomme, justement. Donc, tout à l'heure, merci Georges d'être venu nous confier les confidences de ton champion.
Le Mont Ventoux qui restera en hors catégorie, malgré les 6 km en moins.
Hein, oh là là,
nous l'a confirmé.
Il a oublié, Quintana, que il y a 2 ans, je crois, il avait sauté dans les derniers kilomètres.
C'est le dernier qui était avec Froome.
Il était en avance et il a sauté.
Ouais. Et il était parti au pied. Hein.
S'il vous plaît, messieurs, un peu de discipline. On va écouter Christian Prudhomme, donc le directeur du Tour de France, nous expliquer les raisons qui l'ont poussé justement à tronquer les 6 derniers kilomètres de cette étape et à faire qu'elle s'achève au chalet Reynard et non au sommet, au Ventoux. Christian Prudhomme.
L'arrivée sera faite au chalet Reynard, c'est-à-dire à la lisière de la forêt. On va pas envoyer les coureurs au casse-pipe. Je crois qu'ils pourraient plus. Ils reculeraient avec des rafales à 100 km/h. Donc, il n'était pas question de prendre de risques avec la sécurité des coureurs, du public. Et même simplement pour installer une ligne d'arrivée, c'est complètement impossible au-delà de 70-75 km/h. Donc, c'est la seule décision possible. Ça va, à mon sens, rien changer sur la course. Parce que les pourcentages les plus forts sont jusqu'au chalet Reynard. C'est 10 km d'ascension. C'est-à-dire que ça n'est pas rien. Et je pense qu'ils s'expliqueront dès le pied et qu'on aura une formidable bagarre.
Voilà, Christian Prudhomme qui nous explique les raisons qui l'ont poussé à tronquer un petit peu cette étape. On nous dit également que les barrières de sécurité ne tiennent plus au sol, que la sécurité des coureurs et des spectateurs n'est plus garantie. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Cyril, est-ce que c'est raisonnable ou est-ce que aujourd'hui, on limite comme partout
le principe
dans la société,
de précaution,
le moindre risque?
Oui. Non, je pense qu'on est dans le principe de précaution. On verra bien. De toute façon, demain, on aura la réponse. Que ça pose des problèmes sur le plan, on va dire, logistique. Oui, éventuellement. Qu'on nous dise que ça ne va rien changer à la course, là, j'en doute quand même. Hein.
Je t'assure que moi, je salue cette décision, parce que franchement, le Ventoux, quand il y a des tempêtes comme ça, c'est terrible. Et je te dis encore, il y a des photos qui traînent sur le net. Va voir les photos. Les mecs, ils sont obligés de descendre du vélo dans le dernier virage. Et le vélo est perpendiculaire. Et parallèle au sol.
Je suis d'accord avec toi, Thierry. Hein,
donc arrivé à un moment, c'est le col des tempêtes, juste avant le sommet. C'est, tu sais, le grand virage qui fait le trou, là. Eh ben, on l'appelle le col des tempêtes. Et le col des tempêtes, il est terrible. Mais même déjà, avec du petit vent, il est terrible. Et là, je t'assure, il y a 100 km heure avec des rafales de 120. C'est impossible de monter le Ventoux. Et ça aurait rien changé parce que Quintana, même devant, il aurait été bloqué
non,
par
ça,
le vent.
Ça change, Bourgui, s'il n'y a pas de vent et qu'on fait
oui,
la course,
voilà.
Là, du coup,
oui.
Mais là, avec dans ces circonstances-là, avec un vent comme cela, on va mettre en danger les coureurs, on va assister à une parodie
et, de course. Et les spectateurs, effectivement, il y a des milliers, des centaines de milliers de spectateurs, ou je ne sais pas, centaines, peut-être des dizaines de milliers qui sont déjà installés sur les derniers kilomètres.
Certains camping-cars,
c'était barriéré, et si effectivement les barrières s'envolent, là, ça. Bon, après, Cyril me disait tout à l'heure, mais à quoi ça sert de mettre des barrières? On n'a qu'à les enlever. Oui, mais bon, après, quand on voit les spectateurs qui se massent, déjà, moi je l'ai fait à moto, hein, je ne l'ai pas fait à vélo, mais quand tu as le mur humain qui s'ouvre juste devant toi, c'est quand même assez impressionnant quand tu es coureur. Non, et quand
pour la sécurité
dos,
des coureurs, on ne peut pas faire ça, pas mettre de barrières. Il faut qu'au moins que l'on puisse s'attaquer et prendre la largeur de la route sur les 3-4 derniers kilomètres, donc on peut pas laisser les spectateurs jusqu'à la fin. Et puis au niveau des installations, etc., c'était beaucoup trop dangereux. Quand il y a 30 km/h déjà, ça souffle beaucoup là-haut. Alors là, non, il faut quand même respecter ça et respecter aussi la sécurité pour tous.
Christophe est avec nous au 32-16. Je crois qu'il est pas trop d'accord avec Thierry et Jérôme. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir,
non, c'était juste une petite intervention. Je viens d'entendre là, de côté langue de sécurité, on pourrait faire un parallèle avec la Formule 1. Dans les années 70, c'était une boucherie. Ils ont mis des normes. Il fallait protéger les bonhommes et on voit les résultats. Et oui, je comprends. Maintenant, je pense qu'il y a quand même certains anciens qui doivent se retourner et qui doivent quand même un peu halluciner. Moi, j'ai regardé le Tour de France depuis des années. Je me souviens, les mecs qui descendaient la montagne, ils mettaient des journaux dans les maillots pour pas avoir froid, etc.
Le
Tour de France, ça se résumait à un bonhomme, un vélo et la météo. Eh ben, fallait faire avec les intempéries. Mais je trouve qu'on tend vraiment à aseptiser. Oui, je comprends la sécurité. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Maintenant, les intempéries, on l'a vu aujourd'hui, il y avait du vent aujourd'hui. Il y a eu des bordures, des cassures dans tous les sens. Ça fait partie du vélo, ça fait partie des étapes. Le froid, quand on monte le col, il fait, on passe de 30 dans la plaine à 5 ou voire 0 tout en haut. Je pense que ça fait partie des paramètres qui font les différences parfois chez certains coureurs. Et là, je trouve qu'on l'ampute. Alors quand j'entends ça va pas changer la course, je suis désolé, les six derniers bornes du Mont Ventoux, ça peut faire quand même des sacrés écarts au final. Ouais. Quoi. Donc,
vous avez monté le Ventoux déjà?
Ouais, en voiture.
Non, mais c'est pas pour non, mais pour vous expliquer que le Ventoux, c'est une montagne très très particulière. Il m'est arrivé de partir en t-shirt en bas du Ventoux avec un temps vraiment estival,
ouais.
Et arriver au sommet avec la route barrée parce qu'il y avait de la grêle en pagaille et on se caillait, on se tenait pas debout.
Oui, mais c'est
mais le vent c'est vraiment terrible, c'est pas les températures qui ont fait
Bourgui, c'était au mois de juillet?
C'était au mois de juin.
Non, mais moi je me rappelle d'une étape du Tour de France il y a quelques années qui arrivait au sommet du Ventoux.
Il y a une différence de température énorme entre le bas et le pied, mais c'est même pas la température. Là, c'est vraiment le col des tempêtes, il s'appelle ce col, juste du moins le creux avant le sommet du Ventoux.
Ouais. Le Ventoux est situé dans le couloir rhodanien, le couloir du Mistral, et effectivement, quand ça souffle très fort là-haut, moi aussi ça m'est arrivé sur une étape du Tour de France.
En temps normal, il y a toujours beaucoup de vent déjà.
Une différence thermique entre le bas et le haut lorsque
on le connaît. Ça fait partie de la course.
Bon. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui à Avignon, il y a du vent, mais il n'y a pas la tempête.
Ouais.
Et c'est vraiment du vent qui est en hauteur.
Ouais. De toute façon, messieurs, si on est passionné de vélo, on préférera demain une belle arrivée au Chalet Reynard avec des belles attaques plutôt qu'une mascarade de course où on peut plus avancer parce qu'il y a trop de vent. Donc, on aime le vélo, c'est une bonne décision.
Cyril n'est pas d'accord avec toi.
J'ai rien dit là.
Adore. Ouais, non, mais je te vois maugré dans ton coin là-bas. Là, il est énervé, le druide. Là,
c'est pire.
On va remercier Christophe. Tiens, Christophe, je t'offre le livre Pédale, la grande aventure du vélo avec Bernard Hinault qui porte le maillot rose de leader du Giro. C'était il y a quelques années, Cyril. T'étais avec lui déjà, hein?
Pas que sur le Giro d'ailleurs.
Ouais. Et on va offrir également le même livre à Patrick qui est intervenu tout à l'heure, hein, et qui a donc attaqué Chris Froome comme jamais. Allez, dans un instant, les paris, la dernière partie de cette émission. Et puis à partir de 20h, Bourgui sera toujours là, accompagné de Luc Leblanc pour répondre aux questions des auditeurs avec Martial Fernandez. À tout de suite, la route du Tour en direct de Montpellier ce soir.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Pour la dernière partie de l'Intégral Tour ce soir, toujours en direct de Montpellier, avec Jérôme Pinault, avec Cyril Guimard et Thierry Bourguignon. Il n'est pas à Montpellier, il est à Avignon, mais c'est juste à côté, notre régional de l'étape qui connaît forcément l'étape de demain. On a beaucoup parlé du Ventoux, mais il n'y aura pas que le Ventoux, messieurs. Il y aura l'approche du Ventoux et on a regardé la carte tout à l'heure avec Jérôme et Cyril. Il va y avoir quand même du vent de face pendant bon moment.
Vent de côté, 70 km, là, vous trompez là, les gars.
Ah bon?
Jusqu'à Cavaillon, c'est vent de côté.
Mais on parlait de l'approche.
L'approche du Ventoux?
Ouais.
Non, c'est à l'abri du Ventoux là-bas.
Ah, c'est à l'abri du vent. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc
t'arrives par l'autre côté.
T'es protégé par le Ventoux. Mais bon, c'est pas énormément.
Bon, ça peut bastonner quand même.
Mais je pense qu'il y a deux courses. Il y a la course jusqu'à Cavaillon où les mecs ils vont bouffer du jus comme aujourd'hui. C'est-à-dire que Quintana, il a intérêt à accrocher les bretelles. Et puis après, il y a deux petites bosses qui sont relativement faciles pour le Tour de France. Ça va même pas se connaître.
Ouais.
On y évite dans le Ventoux après.
Quel scénario vous voyez pour demain? Une échappée qui tente de fausser compagnie au peloton et qui arrive au bout, ou alors la grande bagarre pour le général? Thierry.
Ben moi, je pense qu'avec le vent qu'il y a. C'est impossible qu'une échappée prenne du temps dans le début de l'étape. Donc je vois pas, ou alors que ça sorte vers Cavaillon, qu'il y a un petit groupe, mais il y aura pas assez de temps pour permettre à un gars de cette même échappée de gagner en haut. Moi je vois vraiment la bataille des grands avec un Quintana. Moi je donne mon vainqueur.
Ouais. Alors parce que sur Sommières, ça peut pas bouger.
Un coup de bordure,
Sommières,
oui. Un coup de bordure.
Non, mais là, t'auras pas de bordure en montant sur Sommières.
Ouais, mais...
En dessous de Nîmes, t'auras pas grand-chose non plus.
Oh, si.
Bon. Allez, on va accueillir Benji, puisque c'est l'heure des paris, maintenant.
De Sommières à Cavaillon, c'est vent de côté. Hein.
Allez, les paris.
Les paris RMC.
DNU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker.
Salut Benji.
Salut messieurs.
Bon, on n'a pas été non plus fameux sur les pronostics aujourd'hui, parce que Peter Sagan, peu de monde le voyait après le numéro qu'il a fait hier, et c'est encore lui qui s'impose aujourd'hui.
Oui, personne ne l'avait donné, Peter Sagan. Félicitations à Bourgui qui termine quand même 140e, je crois, avec Marc Cavendish.
Oui, bon, ennui mécanique, j'ai eu un ennui mécanique. On se note pas là, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est entre le physique et le côté mécanique, ça suffit.
Qui est en tête du maillot jaune? Enfin, on est tous en négatif, évidemment, mais bon.
On a tous
le moins mauvais, c'est quand même Jérôme Pinault qui est maillot jaune des paris RMC pour l'instant. Maillot vert également pour Jérôme, et le maillot à poids sur les épaules de Thierry Bourguignon, qui va être donc dans sa région avec le maillot à poids sur les épaules.
Ah, c'est pas mal. Bon, Cyril,
deux maillots pour moi quand même, les garçons, attention.
Bon, alors, demain, les codes des différents favoris, Benji, Froome, Quintana, j'imagine que ce sont les deux qui reviennent le plus pour les coteurs.
Oui, tu as raison Christophe, explication selon les bookmakers entre Froome qui est à 3,10 et Quintana qui est à 4,20, et après les cotes montent considérablement puisque le troisième favori c'est Richie Porte, il est à 12. Moi, perdu pour perdu, je vais tenter un coup tricolore demain pour le 14 juillet, je vais tenter Thibaut Pinot avec une cote de 20.
Ah ouais.
C'est vraiment osé, c'est sûr.
Ouais, c'est osé Thibaut Pinot. Est-ce que quelqu'un d'autre va oser Thibaut Pinot demain?
Oui.
Tu vois, il aime bien oser.
Est-ce qu'il va aller dans le talus ou pas?
Non, Thibaut Pinot, il a pas la canne pour s'imposer avec les favoris du tour, et demain
ce sera
les favoris
du tour. Moi je le vois plus en troisième semaine. Attends, avec l'infusion que va lui faire Marc Madiot,
14 juillet,
il va survoler l'étape.
Avec l'infusion de Sagan.
C'est mieux.
L'infusion de Sagan.
Ouais, on est le 14 juillet, ne l'oublions pas.
Mais 14 juillet, les gars.
Citoyen.
Moi, j'aimerais aussi rêver.
Bon, alors, donc Cyril rêve de voir Pinot vainqueur demain.
Qu'est-ce que j'aimerais qu'il ait raison.
Moi, je pense qu'il y a un coup qui partira, et comme le vent est relativement dangereux dans la traversée de la vallée du Rhône, on laissera partir ce coup avec 10, 12 ou 14 coureurs, et Thibaut Pinot fera tout pour y être, pour essayer de marquer un maximum de points pour le classement de la montagne, parce que n'oublions pas que ses adversaires, c'est Froome et Quintana. J'ai presque envie de dire Froome d'ailleurs.
Alors, Thierry, tiens, vas-y, à toi.
Ah ben moi j'ai mis Quintana.
Quintana,
j'ai
d'accord.
Quintana, donc... mais c'est vrai que c'est pas ça, Cyril, mais
merci.
Quand tu expliquais le coup des bordures, quand il y a du vent de côté, tu sais très bien que tout le monde veut être devant pour pas se faire piéger, donc ça accélère. Et comment veux-tu que le coup puisse partir et
surtout qu'aujourd'hui,
mais parce que les équipes de sprinters ne joueront pas dans cette pièce-là demain, ils s'en foutent.
Il n'y a pas que les équipes de sprinters.
Il y a foutu le bazar.
Il y a les leaders qui ont foutu le bordel.
Et ils n'ont pas de leader pour la montagne, à part Kreuziger. Donc ils ne vont pas foutre le bazar. Donc il n'y aura pas de bordure.
Ok, donc Quintana pour Thierry, Monsieur Pinault, vous voyez qui?
Alors moi, je ne vais pas mettre un Français parce que j'ai roulé avec David Moncoutier aujourd'hui, qui est le dernier Français vainqueur un 14 juillet. Il souhaite tellement le rester qu'on ne va pas mettre un Français.
Non, moi, c'est Franck Souillard.
Victoire colombienne demain. D'accord. Alors attention, messieurs, ce ne sera pas Quintana, mais pour moi, Sergio Henao.
Sergio Henao, ah ouais, pour Jérôme Pinault.
Bah moi,
je vais donner Chris Froome demain. Je vais donner Chris Froome. Voilà, merci Benji. On se retrouve demain après-midi, évidemment, au cours de cette étape.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Messieurs, pour finir, on vient d'apprendre la sélection pour les Jeux Olympiques, les sélections de l'équipe de France de cyclisme sur route, avec donc Thibaut Pinot, hein, qui n'aura pas le maillot à poids rouge, hein, sur les routes de Rio, et qui aura un maillot d'équipe de France. Romain Bardet sera également là. Warren Barguil et Julien Alaphilippe, hein, 4 coureurs français. Donc
c'est normal.
Belle voilà. Équipe, oui.
Oui, il n'y en a pas plus. Hein, on n'a pas le droit de courir.
Tu dis 4 coureurs français.
Ouais.
Oui,
en équipe de France,
c'est logique. Ouais, parce qu'en équipe de France, il n'y a pas d'étrangers.
Oui, oui. Non, je voulais dire 4 coureurs. J'ai dit français en plus.
Et voilà. Les remplaçants, Villermoz.
Les remplaçants sont français.
Villermoz, Galopin et Pierre Roland. Et contre la montre, Thibaut Pinot sera le seul représentant français. Il y aura quand même une deuxième place à attribuer ultérieurement. On voit, hein, ça a vraiment une connotation de grimpeur, hein, cette sélection, Cyril.
Oui, le parcours que les Français connaissent bien, puisque ils ont couru sur ce parcours l'an passé. Je crois qu'ils avaient pris d'ailleurs les premiers et troisièmes. Donc on sait exactement à quoi correspond ce type de parcours. Il correspond à des coureurs qui ont des vraies qualités de grimpeurs.
Et vu Villermoz qui s'était imposé l'an dernier au test event à Rio devant Serge Pauwels et Romain Bardet, Villermoz il est dans les remplaçants parce qu'il est moins bien cette année.
Il est un peu moins bien sur
l'équipe de France,
ouais.
Logique.
Mais c'est pas un sauf pour donner la sélection, on peut
pas attendre. Il y a des dates obligatoires.
On peut pas attendre de voir la fin du tour pour savoir qui.
Non, il y a des dates.
Tu es obligé de donner là.
Il y a un timing, c'est pas.
Ok. Tu as des interrogations sur.
Non, mais je sais pas. On va voir la fin du Tour de France. Dans quel état de forme seront Thibaut, Bardet, Barguil et Alaphilippe. Peut-être que Villermoz. Enfin, j'en sais rien.
Ah oui, peut-être.
Oui, mais c'est pour ça qu'il y a trois remplaçants.
C'est les remplaçants. Très bien. Nous verrons cela. Évidemment, les Jeux Olympiques de Rio, ce sera à suivre sur RMC durant 2 semaines. Merci messieurs, merci monsieur Pinault, on vous retrouve demain matin à 7h10 chez Jean-Jacques Bourdin, paraît-il, il va être en pleine forme demain matin, notre
Jérôme. C'est mon heure, c'est à l'heure à laquelle je pars courir d'habitude, donc il n'y a pas de soucis.
Oh là là, on entend des trucs incroyables. Merci Cyril, merci Thierry, et puis on va continuer avec messieurs. Thierry, hein, t'as pas fini toi, puisque non. Martial va prendre le relais jusqu'à 20h30, il y a plein de questions pour vous messieurs, avec le Club Blanc également. Bonsoir Martial.
Bonsoir messieurs, c'est vrai que Bourgui reste avec moi et Lucho, Luc Leblanc va nous rejoindre, appelez-nous le 32-16 ou sur le hashtag RMC Live parce que cette étape aujourd'hui valait le détour. Et puis 20h30, un double champion olympique avec nous, Nicolas Karabatic, le chef de file des experts prêts à défendre leur titre en pleine préparation du côté de Rodez.